Bonsoir à tous, bienvenue dans Cop Paris, votre rendez-vous tous les lundis avec le PSG sur BFM Paris Île-de-France. Une grosse et belle actu ce soir avec un très beau casting en plateau. Notre invité d'honneur, c'est un ancien joueur du PSG, monsieur Trippi Makonda. Salut Trippi.
Salut, comment ça va?
Très très bien, merci d'être avec nous pendant toute la durée de l'émission. François Bessène et Romain Alexandre, les supporters du PSG, sont là également. Salut messieurs.
Bonsoir.
Salut Julien, salut à tous.
Le sommaire, on y va avec un boulot à finir pour les Parisiens. Ce sera mercredi soir en Ligue des Champions. Le PSG devra valider sa qualif pour les huitièmes face au Stade Brestois. C'était, et c'est plutôt bien parti, après le 3-0 du match aller. Toulouse-PSG, retour sur la victoire parisienne au Stadium. Focus sur les seconds couteaux, entre guillemets, qui ont brillé au milieu de terrain. Le Titi, Seni Mayulu et l'insondable Fabian Ruiz. Et puis l'instant nostalgie, retour sur un match qui a marqué l'histoire du PSG. C'était le 17 mai 2008 à Sochaux, le jour où le PSG a évité la descente en Ligue 2. Enfin, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens omnisports. Cop Paris, c'est parti. Bon, on a eu Boukari Dramé la semaine dernière en plateau. La génération d'avant, mais le même poste que toi, un autre ancien Titi parisien nous accompagne ce soir dans Cop Paris. Trippi Makonda, immense plaisir vraiment de t'accueillir.
Bah, depuis le temps, hein, on a quand même pas mal de messages. Et c'est vrai que c'est plus pendant les vacances scolaires que je suis disponible.
Bon, c'est un grand plaisir. En tous les cas, on va rappeler ton parcours formé au PSG avec lequel tu as joué pendant 3 saisons au poste de latéral gauche, lancé en 2009 par Paul Le Guen. Tu as aussi la particularité, ça va nous intéresser dans quelques instants, d'avoir joué à Brest. Pour revenir sur ton histoire avec le PSG, s'il fallait retenir une chose, un souvenir, Trippi.
Bah, magnifique, magique. Comme j'ai dit, moi, ma storytelling, elle est quand même assez exceptionnelle. Moi, j'ai grandi pour Nugaré-Gléano, donc au Paris 16e. Donc, j'étais tout proche du Parc des Princes. J'ai joué à côté du Parc des Princes. J'ai été scolarisé au lycée Claude Bernard, qui se trouve juste en face du virage Auteuil. Comme j'ai dit, le fait d'avoir connu cette atmosphère-là, sans pour autant en prendre conscience, bah, le fait de jouer après de fouler la pelouse du Parc des Princes, c'est quelque chose de magique.
Tu es toujours lié au club, Trippi, puisque tu commentes les matchs du club sur les réseaux, sur Twitch, sur YouTube. Ça se passe comment? Est-ce que tu arrives à rester objectif? Il n'y a pas de parti pris? Comment ça se passe?
Ouais, déjà, on n'a pas coupé le cordon avec le PSG, donc ça, déjà, ça fait plaisir. Et en fait, c'est un peu comme l'équipe 21. Les gens qui nous regardent ne suivent pas le match, mais ils nous écoutent. Donc, on essaie de retranscrire des émotions, de donner aussi des analyses. Parce que moi, je suis avec, sous le nom de Hive5, Arsène, qui est connu sur YouTube, le streamer. Et c'est vrai qu'on essaye d'être très pro-PSG. Ça, c'est quand même notre qualité. Et après, derrière, on essaye d'emmener quelques analyses, quelques des jeux. On peut faire aussi, parce qu'il y a pas mal d'émissions aussi sur Twitch et YouTube.
Est-ce que ton cœur était partagé, Trippi, mardi dernier, lors du barrage aller de Ligue des Champions entre Brest et le PSG? Tu as joué 4 saisons avec le Stade Brestois. Et globalement, qu'est-ce que tu as pensé de ce match?
Non, mais j'étais quand même parisien à ce moment-là. Après, c'est vrai que j'ai passé 3 saisons et demie au Stade Brestois. Donc, c'est quelque chose aussi d'exceptionnel, parce que c'était ma première expérience dans un autre club après que les Qataris aient acheté le club. Donc, après le match en lui-même, c'était un bon match maîtrisé. Ouais. C'est vrai qu'on a eu un peu chaud, mais c'est quelque chose que les Parisiens arrivent quand même à stabiliser cette saison. C'est qu'on arrive à battre une équipe à l'usure.
C'est ça. François, Romain, ce match aller, victoire 3-0, c'est un score logique ou un petit peu flatteur pour le PSG? Parce que, comme le rappelait Trippi, il y a quand même eu 3 montants pour les Brestois.
Oui, un peu flatteur, je suis d'accord. En première mi-temps, on a un gros temps faible entre la 25e et la 45e, où ils ont pas mal d'occasions. Et là où on aurait pu se faire égaliser il y a quelques mois, là on a un peu senti une force collective qui a fait qu'on a résisté et on a été tueur. Cligny, 45e minute, 2-0. Donc c'est là où on reconnaît le renouveau un peu du club cette saison.
C'est souvent toujours la même histoire avec Brest. Match accroché, match spectaculaire, mais il y a un monde ou un gouffre entre les deux équipes.
C'est normal, c'est pas les mêmes budgets, ce sont pas les mêmes joueurs. Maintenant, faut féliciter ce que fait Eric Roy avec cette équipe. Hein. Ouais. C'est extraordinaire. Après, ce que j'ai apprécié dans le match, c'est que même si on a en effet senti ce temps faible, Paris a pas paniqué. C'est-à-dire qu'on voyait les joueurs se parler, se placer, Pacho, Marquinhos. Il y a une tête sur le poteau, oui, il y a le dégagement de Donnarumma, ça peut faire but, mais on en voit tous les week-ends, que ce soit en Première Ligue, en Liga, ça arrive. Ouais. C'est trop facile à dire, c'est Donnarumma, même si tu connais mon appréciation pour le gardien italien. Ouais. Mais globalement, Paris ne s'est pas effondré dans la tête, il n'y avait pas de raison, mais c'était agréable de voir que voilà, là on a un temps faible, on va encaisser. Ouais. Et quand il va falloir être chirurgical, on va l'être.
Rapidement, les deux grands bonhommes quand même de ce match aller. Ousmane Dembélé sur son nuage qui a encore claqué un doublé. 23 buts désormais cette saison. Trippi, c'est un autre joueur d'une autre dimension désormais, Ousmane Dembélé.
Un autre joueur en termes de statistiques, oui. Mais après, en termes de performance, non. Parce que Ousmane, c'est le joueur, même la saison dernière et cette année, qui emmène le plus d'attaques sur son côté avec Achraf Hakimi. Maintenant, ce qui lui manquait, ce que certains lui reprochaient, c'est sa finition. Aujourd'hui, ça marche et tant mieux pour lui. Parce qu'on l'a vu, on a lu dans les interviews, on l'a aussi vu en termes de vidéos. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans l'entraînement invisible, que ce soit avec analyse vidéo ou même avec un entraînement spécifique après les entraînements. Tant mieux pour lui aujourd'hui que ça marche et tant mieux aussi pour le Paris Saint-Germain.
L'autre buteur, messieurs, MVP du match, la sentinelle de Luis Enrique, c'est Vitinha, lui dont on a la sensation, après un début de saison plus délicat, qu'il retrouve le même niveau que la saison passée à la même époque.
En fait, ce qui est compliqué, c'est que l'année dernière, tout le jeu passait par lui. Là, on a un João Neves qui également prend beaucoup va chercher beaucoup les ballons. Donc peut-être que quand Luis Enrique dit vous n'avez pas idée ou vous ne comprenez pas, potentiellement également les consignes qu'il donnait à Vitinha n'étaient pas les mêmes. Ouais. Mais que ce soit là, par contre, dans le volume ou dans la création, on le voit un tout petit peu plus haut. Donc c'est plutôt positif.
Luis Enrique parle d'un joueur unique en parlant de Vitinha. C'est la pierre angulaire, Vitinha.
Je trouve qu'il est unique parce qu'il est capable d'occuper les trois postes au milieu de terrain, même jouer encore un peu plus haut. C'est quand même pratique en cours de match pour s'adapter à des situations. Je le trouve plus tranchant dans ses passes et puis il recommence à frapper loin. Donc on sent qu'il a de la confiance et son coup franc, la dernière fois, il illustre aussi.
Bon, 3-0 au match aller à l'extérieur. Autant dire que nos amis bretons ont bien du mal à croire à l'exploit au match retour. Ils parlent quasiment tous, on va les écouter, de mission impossible.
On ne sait jamais si on a une pointe de réussite qu'on n'a pas eu au match aller et surtout si on fait aucune erreur, on ne sait jamais, mais on sait très bien que c'est quasiment mission impossible.
Si on peut imaginer qu'on puisse gagner 4-0 au Parc, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui l'imaginent. Ça paraît en tous les cas mission impossible, mais bon, nous, on n'est pas du tout focalisé sur ce match retour.
Trippi, c'est déjà immense. On le disait, ce qu'a réalisé le Stade Brestois en Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a un monde, selon toi, où Brest peut remonter ses trois buts?
Ça va être quand même compliqué, parce qu'on voit quand même que le Paris Saint-Germain, cette saison, et même sur la continuité de ce qu'ils font de la saison dernière, ça commence à être beaucoup plus cohérent, collectif aussi également. Et c'est vrai que ce match face à Brest, on l'a dit, il y a eu pas mal de résistance de la part du Paris Saint-Germain. Et c'est cette nouveauté aussi qu'on n'avait pas l'année dernière, où les Parisiens arrivent dans les temps faibles, à rester très solides et après aussi marquer, même dans nos temps faibles, marquer. Mais c'est vrai que pour les Brestois, pour le coup, c'est, je vais pas dire mission impossible, parce que ça reste quand même la Ligue des Champions. On a quand même eu, nous aussi, de notre côté, pas mal de cicatrices qu'on n'arrive pas
à... Restez méfiants, messieurs, tout de même, parce qu'on connaît ce passif et ce passé du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions sur les doubles confrontations.
C'est pas une question de passif, c'est de toute façon, c'est un match de football. Donc il faut le jouer, il faut respecter l'adversaire, d'autant plus qu'il est bon. Maintenant, pour moi, c'est emballé, pesé, merci, au revoir. Il ne doit pas y avoir de débat. Et on peut perdre, ça peut arriver.
Oui,
il y a très peu de raisons qu'on perde. Mais alors perdre avec 3 buts d'écart, aller en prolongue, non, franchement.
Oui, sans en marquer un, parce que c'est aussi ce que dit Eric Roy. Imaginez déjà qu'on en mette 4, c'est dingue, mais alors il faudrait aussi que le PSG n'en marque pas.
Ah non, honnêtement, ce monde-là, pour moi, n'existe pas. On ne parle pas du Barça. On connaît les cicatrices du PSG, mais attention, à l'époque, il n'y avait pas d'équipe. Il y avait beaucoup de joueurs additionnés un peu partout. On avait perdu des joueurs majeurs dans le collectif du PSG. Là, on voit un collectif. Et c'est vraiment pour ça que j'y crois pas, mais une seconde.
Romain s'est plié. Et est-ce qu'à ton avis, Luis Enrique peut se permettre de faire un tout petit peu plus tourner que d'habitude en Ligue des Champions? Peut-être donner du temps de jeu à Ramos?
Un petit peu, mais pas non plus que ça. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on se rende le match facile dès la première mi-temps. On plie le match et là, tu fais tourner. Moi, je serais plutôt équipe type en première mi-temps et après.
D'autant qu'il a énormément fait tourner à Toulouse.
Tourner à Toulouse, voilà,
c'est pas pour rien.
Après, il y a le d'avance. Il y a Lyon ensuite,
Karim. Il y a Lyon, effectivement. Et c'est peut-être le match le plus important de la semaine. Forcément, très tentant quand même de se projeter, sans faire injure au Stade Brestois, vers les huitièmes de finale. Le tirage au sort aura lieu vendredi et le PSG sait déjà qu'il affrontera soit Liverpool, soit le Barça. Les deux équipes qui ont terminé en tête de la phase de poule. Liberté totale, messieurs, allez-y. Est-ce que vous avez une préférence sur l'identité de l'adversaire?
Liverpool pour Anfield. C'est pas une question de niveau, parce que c'est un public extraordinaire qui a souvent inspiré les tribunes du Parc, donc Liverpool.
Le Barça, parce qu'ils sont pour moi un poil plus irréguliers que Liverpool, c'est un peu moins rodé, et aussi pour le plaisir de les éliminer deux fois de suite après la remontada.
T'as l'impression qu'on n'a pas encore soldé les comptes avec le Barça.
Ce serait la troisième.
Oui, mais la deuxième d'affilée et la troisième depuis la remontada.
Alors le Barça, c'est quand même un grand classique. Je regardais 12 matchs sous l'ère QSI. Le Barça, c'est vu et revu.
À un moment donné, on a fait la digestion. Après, moi, je suis pareil, je suis pour Liverpool. De par l'ambiance aussi en première ligue, commence à bien performer également dans le collectif. Le coach arrivant aussi a insufflé ce que même Jürgen Klopp a essayé de mettre aussi en place pendant de longues années. T'as quand même le meilleur joueur actuel aussi qui joue dans cette équipe, Mossala, qui est là. Il y a le milieu de terrain aussi qui marche bien du côté de Liverpool. Donc c'est aussi un bon match test. Parce que c'est vrai que ça fait déjà presque un an et demi que Luis Enrique est arrivé au club et qu'il essaye de mettre en place sa méthodologie qui commence à marcher, qui commence à émerger par rapport aux joueurs. Et on aimerait voir face à un gros ce que ça donnerait.
Toi, Liverpool, c'est plus sur le côté
Anfield, plus dans l'émotion.
Inédit, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un adversaire, selon toi? C'est du 50-50 ou il y a un adversaire qui est plus coriace que l'autre?
Le Barça en ce moment a un peu plus de difficultés défensives, mais ils ont une telle force de frappe offensive qu'ils en calent 4 à tout le monde. Mmh. Je ne sais pas si les gens ont regardé la Super Coupe d'Espagne.
Oui, oui, oui. Puis Rafinha sur l'eau.
Oui, ils prennent des buts. Nous, on est capable d'en mettre. Est-ce que notre défense sera suffisamment forte pour aller bloquer Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski? Mmh. Défensivement, on s'en sort plutôt bien, mais on s'en sort plutôt bien. Et sur les ailes, en ce moment, on voit vraiment Hakimi et Nuno monter énormément. C'est vraiment ça. C'est en train de permuter. C'est vraiment intéressant. Sauf qu'en face, il va y avoir vraiment des flèches. Ouais. Donc, je ne sais pas si vraiment il y a une équipe. Ah non, il faut absolument jouer cela. Ouais,
c'est compliqué. Après, hein, ça reste deux énormes morceaux.
Après, quand tu regardes aussi les buts encaissés en championnat, on est tous pareils. On est à moins de 30. On est entre 23 et 25. Donc, ça veut dire que le match va être ouvert dans le sens où, dans l'offensive, chacun va essayer de créer des opportunités. Mais c'est vrai que défensivement, si on est bien, et surtout par rapport au Paris Saint-Germain, où on voit même s'il y a des occasions, mais on est quand même stable, ça peut faire aussi un grand match.
Il y a eu quelques clean sheets, c'est vrai, ces derniers matchs. C'était l'un des petits bémols de ces dernières semaines. Le Paris Saint-Germain n'arrivait pas à terminer un match sans prendre de but. Là, on sent aussi que ça va un petit peu mieux de ce point de vue-là. Mais voilà, il n'y a pas forcément Yamal, Rafinha, Lewandowski, Salah, Gakpo, Diaz, je m'arrête là.
Oui, Diaz, c'est Salah.
C'est beau, la Ligue des Champions, c'est pas mal, ouais. Bon, écoutez, on va voir ça. On va voir le résultat du sondage. On vous a demandé sur le hashtag Cop Paris quel serait le pire tirage possible pour le PSG, toujours en cas de qualif. Pour vous, c'est Liverpool qui représente quand même la plus grosse menace pour le PSG, avec plus de 68% des votes. Réponse vendredi avec le tirage au sort de cette Ligue des Champions. Petite coupure pub et on se retrouve dans quelques instants pour revenir sur la Ligue 1, la victoire à Toulouse et le très bon match notamment de Fabian Ruiz. A tout de suite. De retour dans Cop Paris avec mes trois invités du soir, Tripi Makonda, ancien joueur du PSG, François Bessen et Romain Alexandre. Messieurs, il n'y a pas que la Ligue des Champions dans la vie, il y a la Ligue 1 aussi. Ce championnat de France que le PSG surdomine avec ses 10 points d'avance sur l'OM. Dernier épisode en date, on va revoir les images, c'était la victoire samedi soir à Toulouse. Équipe très largement remaniée, le PSG a longtemps buté sur le TFC et Guillaume Rest, notamment la frappe sur le poteau de Beraldo. Le duel perdu ensuite par Bradley Barcola, très belle ouverture à l'origine de Désiré Doué. Et puis le PSG va faire la différence en seconde période sur coup de pied arrêté, tiens sur corner à la 52e minute, tête de Pacho et conclusion à bout portant signée Fabian Ruiz qui inscrit le seul but du match, une victoire qui ne restera pas, je pense qu'on peut le dire, dans les annales. Mais en ce moment, même quand le PSG n'est pas véritablement flamboyant, t'as commenté le match Tripi, le PSG s'impose et logiquement, j'ai envie de dire.
Oui, parce qu'au final, on a aussi le Paris Saint-Germain aussi, on va dire, cet accord entre eux, qui doivent terminer aussi invaincus.
Ouais.
T'es quand même à plus de 10 points ou à 10 points du deuxième, donc il y a aussi ce challenge à respecter.
Il y a un accord, parce que Luis Enrique n'arrête pas de répéter, mais qu'il s'en fiche un petit peu, que l'essentiel, c'est de gagner les titres.
Après,
à la fin.
Après, lui, il s'en fiche, mais il n'est pas seul, donc il y a aussi le groupe aussi qui espère être invaincu, c'est tout à fait normal, parce que c'est quand même un record extraordinaire, et surtout à l'extérieur. Ouais. Le record est à plus de 30 matchs à l'extérieur sans défaite. Après, derrière, ça permet aussi de voir d'autres joueurs, de voir des joueurs émerger du centre de formation, de voir des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, de pouvoir être fiable auprès du coach pour les matchs à venir. Et surtout, le plus important, c'est de gagner.
Il reste 12 matchs de Ligue 1. Je continue sur les invincibles. Tripier ouvert le débat. Est-ce que le PSG peut terminer invincible cette saison en Ligue 1? 8 mois que le PSG n'a pas perdu contre une équipe française.
Moi, je l'espère. Ouais. Je l'espère. Il y a l'année avec Zlatan. On doit perdre un match vers la 30e journée.
Lyon,
oui, je crois que c'est Lyon. Et d'ailleurs, je crois que c'était juste après un match de Ligue des Champions. Donc... Mmh. À la rigueur, ce qui est bien dans ce match à Toulouse, c'est que même si ce n'est que Toulouse, on met les ingrédients à minima pour ne pas perdre.
Ouais.
Et en plus, bon, ils ont quand même un peu poussé pour gagner. Mais en vrai, pour les supporters, ouais, on aimerait bien qu'ils terminent invaincus. C'est, je crois là, ils sont à 35 matchs sans défaite à l'extérieur. Milan, ça devait être 39, le record
non,
en Europe.
Premiers, non, les premiers, là.
Ça serait dingue. Ouais. Ça serait dingue. Et reste Lyon.
Il reste Lyon, Lille et Marseille. 12 matchs, Romain, c'est faisable.
Oui, c'est jouable. C'est jouable. Ça va dépendre aussi de la réaction des joueurs au parcours de Ligue des Champions.
Oui. Ça va dépendre du parcours tout court.
Dans les deux sens, hein, qu'on gagne ou qu'on perde. Oui. De toute façon, dans les deux cas, il y a une décompression. Et c'est pour ça que ce match de Toulouse en plein milieu des deux barrages, ça avait tout du match piège à l'extérieur contre une équipe joueuse qui a envie de gagner. Et on l'a quand même réussi à plutôt le maîtriser. Et à gagner, donc non, c'est très bien. Quelques années, on ne l'aurait pas fait. Ça. Ouais.
Le MVP du match samedi au Stadium, unique buteur de la rencontre, Fabian Ruiz. Tripit, on regarde sur Fabian Ruiz, souvent critiqué, peut-être, tu vas nous le dire, sous-côté. Est-ce qu'on est trop sévère avec Fabian Ruiz?
Non, parce qu'on est exigeant envers tous les joueurs, parce que c'était quand même au Paris Saint-Germain, il y a quand même une excellence en termes de performance à avoir. Après, c'est sûr qu'on n'a pas le Fabian Ruiz qu'on aimerait avoir en Espagne, qu'on l'a au Paris Saint-Germain, mais ça reste quand même un joueur fiable, parce que Lucien Riquet le met titulaire, l'a encore mis titulaire face à Toulouse. Donc, il estime que c'est un joueur fiable et de confiance. Après, derrière, c'est seulement un équilibrateur. C'est celui qui va équilibrer le jeu, qui va pas forcément être flamboyant. Certes, il a marqué face à Toulouse, mais ça sera pas un joueur Neves qui, par sa fougue de genèse, va apporter beaucoup plus, ou par rapport au 4-2-devant qu'on a aujourd'hui.
Est-ce qu'il n'est pas justement tout simplement moins en lumière, Fabian Ruiz, lorsqu'il a un Vitinha, un João Neves à côté de lui, qui ont d'autres qualités, plus, j'ai envie de dire, plus visibles, plus techniques?
Je ne sais pas s'il est moins mis en lumière, mais pour moi, c'est surtout que... il n'est pas dans le même schéma tactique qu'avec l'Espagne. Mmh. Avec l'Espagne, il ne faut pas oublier, derrière lui, il y a Rodri. Ouais. Et on voit l'effondrement de Manchester City depuis la blessure de Rodri. Les joueurs au milieu, ils ne brillent pas de la même façon.
Alors, toi qui es un grand connaisseur du football espagnol, est-ce qu'il y a un monde d'écart encore entre le Fabian Ruiz, champion d'Europe de la Roja, et celui du PSG?
Et avec la Roja, déjà, il y a l'Euro et il y a les qualifs à l'Euro. Fabian, on ne le voyait pas être aussi flamboyant à l'Euro. Toute l'équipe d'Espagne est flamboyante. Ils sont inspirés, les mecs, c'est impressionnant. Personne croyait en eux. Il faut vraiment se rappeler que la presse espagnole les massacrait parce que la liste convenait pas, il n'y avait pas assez de joueurs de Madrid, etc. etc. Et je pense qu'il a impressionné tout le monde sur le premier match contre la Croatie où l'Espagne en met 3, il prend sa chance, il fait un dribble, il marque, et il a pris vraiment un shoot de confiance. Maintenant, à Paris, je pense que déjà, on lui demande d'être un peu plus bas. Vu que ça permute énormément, déjà dans les compositions d'équipe, et en plus, pendant le match, chaque joueur doit permuter. C'est plus compliqué, j'ai l'impression qu'il est moins, il est moins flexible. Ouais. Il est plus posé sur un poste donné, mais j'ai du mal à valoriser ce match-là, parce que depuis le début de l'année, il est bien trop irrégulier à mon goût.
Romain, je reviens vers toi dans quelques instants. Je voudrais qu'on écoute Luis Enrique, qui a parlé de Fabian Ruiz il y a quelques jours et qui a fait, c'est quand même assez rare pour être souligné, une sorte de mea culpa sur l'Espagnol.
Le Mundial ne l'a pas.
Lorsque j'étais sélectionneur de l'Espagne, je ne l'avais pas pris pour la Coupe du Monde 2022. Aujourd'hui, je peux le dire, je me suis trompé à l'époque. Je pense qu'il est temps d'apprécier à sa juste valeur tout ce qu'il nous apporte. Il joue et s'entraîne tout le temps à fond. Il est toujours prêt, que ce soit pour une, 15 ou 90 minutes. Je pense qu'il est très important pour le PSG.
Bon, c'est un highlight de la saison, Luis Enrique qui se déjuge, bon, certes sur une période il y a 2-3 ans avec la Roja. Il parle d'un joueur important. Il n'est pas essentiel selon toi, Fabian Ruiz, au Paris Saint-Germain, Romain?
Et pour moi, je le trouve encore trop décevant, trop irrégulier. À chaque fois, pour moi, c'est le maillon faible du milieu de terrain. Il n'est pas assez précis techniquement et on disait qu'il était plus bas que les autres. Mais pourquoi il est plus bas que les autres? Parce que quand on lui a demandé de jouer plus haut, il apportait pas grand-chose. Pour moi, il y a encore un monde entre Fabian Ruiz de l'Espagne et celui du PSG. Et bien que Enrique veuille faire du football fiction, à mon avis, c'est plus à visée protectrice pour encourager son joueur. Mais pour moi, il est encore en dessous. Et j'en ai pour preuve, hein, contre Brest à l'aller. Il fait pas un mauvais match, mais c'est celui qui perd le plus de ballons, celui qui perd le plus de duels et celui qui a le moins de dribbles réussis des trois milieux de terrain.
C'est un petit peu le prototype du joueur, je sais pas si c'est le bon terme, joueur de l'ombre, Fabian Ruiz, qui sert un petit peu à connecter les uns et les autres. Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'il a pour lui, Fabian Ruiz? Finalement, moi, je le trouve insondable.
Joueur de devoir. Non, mais c'est exactement ce que dit Luis Enrique. Un joueur de devoir, sans doute quelqu'un qui, dans le vestiaire, pose pas de problème.
Il y a de l'expérience aussi chez Fabian Ruiz, dans un milieu de terrain très jeune.
Il y a de l'expérience et c'est important dans un collectif. Il y a toujours des fortes têtes. Ce sont des joueurs tous de grands talents, donc ils ont forcément de l'ego. C'est important d'avoir des joueurs comme ça aussi. Après, tu parlais quand il était un peu plus devant, il était plus perdu. Je vois que le joueur qui doit jouer faux neuf au PSG, il est toujours perdu. Donc le joueur qui est juste devant, il est aussi perdu. Avec l'Espagne, t'as toujours Morata. C'est pas compliqué, il y a Morata devant. Donc c'est, voilà, c'est pas le même jeu, c'est pas pareil. Mais après, ce qu'il a pour lui, il a une qualité technique. J'ai l'impression que c'est plutôt physiquement qu'il pêche, parce que peut-être qu'on lui demande plus d'efforts, il a moins la caisse pour ensuite être précis dans les transmissions de balles, parce que tu l'as dit, il perd beaucoup de ballons. C'est particulier, ce joueur. Il a un talent fou, mais on a du mal à le valoriser à Paris.
Aussi beaucoup, Fabien Ruiz, parce que Warren Zaïre-Emery est blessé, il vient d'enchaîner deux matchs. Est-ce que c'est une menace à terme pour Warren Zaïre-Emery, ou alors avec toute la concurrence qu'instaure Luis Enrique, ça va tourner et finalement il n'y a pas de titulaire indiscutable?
Non, je pense que c'est la deuxième option, parce qu'on sait la force de Luis Enrique à ranguer un petit peu ses joueurs en fin d'entraînement. Il l'a justement dit qu'il se donne toujours à 100%, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il a envie aussi d'avoir cette place dans le 11 de départ, déjà dans le groupe et dans le 11 de départ. Le fait que Warren soit blessé, forcément, ça lui donne plus de possibilités et d'opportunités de jouer. Maintenant, quand Warren va revenir, il va revenir, est-ce qu'il va être à 100%, est-ce qu'il va être à 90%? Donc il y a aussi cette méforme ou cette forme qu'on verra du côté de Warren, mais Désiré Doué a déjà joué à ce poste-là, Lee aussi a déjà joué à ce poste-là. Donc c'est, si Luis Enrique le met sur le terrain, c'est qu'il compte sur lui. Peut-être un joueur de devoir, peut-être un joueur de l'ombre. Je ne dis pas qu'il est exceptionnel, mais voilà, il fait son travail.
Je ne sais pas si on aura vraiment percé le mystère, Fabien Ruiz. On va passer à un autre milieu de terrain formé au club qui a marqué les esprits contre Toulouse. Je reste avec toi, Tripi. Seni Mayulu, ça doit te toucher de voir un garçon du club, 18 ans, 6e titularisation pour lui. C'est quand même très costaud de faire ça au Paris Saint-Germain. Ce que fait Seni Mayulu, bah, avec la concurrence.
Ce qui est costaud, c'est qu'il est mon numéro 24. C'est le maillot que j'ai vu.
C'est le numéro positif.
À partir du moment où on prend le numéro de 24, donc moi, quand je suis parti, c'est Verratti qui l'a eu.
Ah bah, pas mal.
C'est ce qu'il est devenu. Et après, il y a Seni Mayulu qui est là. Mais le fait d'avoir des Titi émerger dans ce collectif-là, on connaît aussi l'exigence que met Luis Enrique sur chaque joueur. Et le voir un petit peu exceller dans ses débuts en pro, ça fait toujours plaisir.
C'est un joueur qui m'enchante, dit Luis Enrique. On a l'impression que c'est aussi un petit peu, c'est important, la définition du joueur Luis Enrique compatible, qui défend, qui sait bien occuper les espaces, qui sait un peu tout faire.
Bah déjà, faut valoriser Luis Enrique qui fait jouer les jeunes. Mmh. On a eu des entraîneurs et on a fait des émissions par le passé. Pochettino qui disait « je vais faire jouer les jeunes ». Galtier, « je vais faire jouer les jeunes quand on sera champion ».
On l'attend toujours. Oui.
Et on attend toujours. Mmh. Et Luis Enrique les fait rentrer dans la rotation, leur donne de la confiance et ils apprennent comme ça. Et je trouve ça très bien. Mayulu, ça fait extrêmement plaisir. C'est un enfant du club. Mmh. Donc pour nous, dans la tribune…
18 ans, Seni Mayulu.
Ça fait extrêmement plaisir. Ouais. Et honnêtement, il montre sur le terrain. Il mérite d'être là. Alors évidemment, il n'est pas titulaire, mais il va progressivement prendre des matchs, des bouts de matchs.
Et je trouve qu'il prend confiance. Je ne sais plus qui disait après le match. Il joue déjà comme un taulier, comme un joueur de 30 ans. C'est un vrai joueur de futur, Seni Mayulu.
S'il continue comme ça, oui, je ne vois pas comment il pourrait échapper à une place plus importante dans l'équipe ou dans d'autres clubs en fonction de ce que Paris voudra faire avec lui. Mais c'est vrai que match après match, il prend confiance, il prend plus de risques. Techniquement, il est hyper propre, il frappe. En tout cas, il ose, il a la personnalité. Et ça, c'est quand même super bien à 18 ans.
Le petit bémol sur ce match à Toulouse, le match de Kvaratskhelia, dont on sent qu'il a encore un petit peu du mal à connecter, à trouver, on va dire, les repères avec le reste de l'effectif. C'est normal, une adaptation un petit peu difficile. Il a déjà marqué, il a déjà donné une passe. Je parle vraiment du jeu, de la manière de se connecter.
Vous êtes dur. Il sort quand même d'un championnat italien où il est beaucoup plus ouvert aujourd'hui, d'un championnat de France où tu mets le bus. Donc c'est complètement différent. Mmh. Et forcément, oui, il vient d'arriver au club, oui, il y a des connexions à se faire. On l'a vu face à Monaco où le match était un peu plus ouvert. On l'a vu quand même intéressant dans ce qu'il a pu faire dans les connexions avec les joueurs, de par son premier but au Parc des Princes. Mais quand tu arrives en Ligue 1, et tout le monde le dit, quand tu arrives en Ligue 1, c'est complètement différent des autres championnats. Donc après, ça fait que quelques mois qu'il est là. Donc faut pas être aussi trop gourmand. Oui, on est le Paris Saint-Germain, on est exigeant. Mais on sait quand même la qualité que Kvara a au sein, qu'il a eu à Naples, mais qu'il aura aussi potentiellement au Paris Saint-Germain.
Et puis il faut du temps pour gérer un petit peu la méthode, l'idée du jeu de Luis Enrique. Ça me rappelle un petit peu de Désiré Doué en début de saison, qu'on sentait un petit peu perdu, puis qui au fur et à mesure a réussi à connecter.
Ah, c'est totalement ça. En fait, on est en train de se dire que Paris joue très bien au football. C'est-à-dire qu'il y a des chemins de passe, il y a des façons de jouer. Bah, il faut qu'il s'habitue à jouer avec ses partenaires. Après, il vient également du championnat italien. Il était moins bien.
Mmh.
Il n'a pas joué pendant un mois. Il y avait quand même des bisbilles avec Conte. On savait qu'il voulait partir. Voilà, il faut lui laisser le temps de rentrer dans le collectif. Bah, il n'a pas été pris juste pour qu'on gagne cette année avec des champions.
Aucune inquiétude, Romain, zéro, pour Vara.
Zéro inquiétude. Aucune inquiétude. En plus, Luis Enrique, il a mis un an et demi à trouver une animation offensive qui marchait plutôt bien. Là, il arrive, il joue faux neuf, c'est pas son poste. Il joue un peu lié gauche, un peu lié droit. Partout, hein, il est trimballé comme Ramos, comme Dembélé avant. Donc, voilà, il faut le temps que ça prenne, qu'il rentre dans le moule. Mais pour moi, pas d'inquiétude. C'est un joueur de grand talent.
Nouvelle coupure pub, messieurs, on va se retrouver pour la dernière partie. Ça sera l'instant nostalgie dans Cop Paris, le jour où le PSG a failli descendre en Ligue 2. On en a encore plein le dos sur le plateau de Cop Paris. A tout de suite. Allez, on est de retour dans Cop Paris, la dernière partie avec mes trois invités du soir. Trippi Makonda, Romain Alexandre et François Bessène. Et ça sera l'instant nostalgie, donc avec un match dont tout supporter en âge de l'avoir vécu se souvient. Le 17 mai 2008 à Sochaux, dernière journée de Ligue 1, le jour où le PSG a failli descendre en Ligue 2. Un PSG qui sort d'une saison assez cauchemardesque, qui a besoin d'un résultat à Bonal pour assurer le maintien. On va écouter Paul Le Guen, entraîneur à l'époque. Ça replace un petit peu les choses dans leur contexte. Vous allez voir, ça respire pas la sérénité.
Je n'arrête pas de dire que je suis inquiet, qu'il va falloir se bagarrer jusqu'à la fin. C'est parce que je connais la situation et je sais que il peut y avoir crispation, qu'il peut y avoir des événements qui sont un petit peu difficiles à surmonter. Je suis sincèrement lucide.
Lucide mais inquiet. Trippi, toi, t'étais tout jeune à l'époque, tu t'entraînais avec les pros, t'as pas joué ce match, mais t'étais dans l'ambiance du Paris Saint-Germain. Raconte-nous un petit peu l'ambiance, la pression qui existait autour du PSG.
Alors moi j'avais deux sentiments, c'est si le PSG descend, ça pouvait profiter aux jeunes de jouer.
C'est vrai, voilà. j'avais pas vu comme ça.
En termes de performance, mais la deuxième option, c'était oui, le PSG ne devait pas défendre de par son histoire, de par aussi son envergure internationale dans le monde du football. Après, c'est vrai que le sentiment, il était un peu très inquiétant.
Tu ressentais la pression, la tension, avant le match, notamment à Sochaux?
Non, mais même avant, c'est au-delà d'avant le match, c'est dans la semaine, vu que moi j'étais au centre de formation qui se trouve à 500 mètres du camp des loges où le Paris Saint-Germain, avant s'entraînait, c'était parqué de CRS. Ouais. Il y avait plein de camions CRS sur toute l'avenue Kennedy. Donc tu savais que c'était un match à haut risque et que les Parisiens et surtout les joueurs qui devaient faire ce match devaient être au top du mot.
Le camp des loges qui avait été saccagé, Maxence peut nous envoyer les images quelques semaines auparavant, au lendemain d'une défaite, ouais, je crois, à Caen, 3-0. Avant de reparler de Sochaux, Romain, François, c'est une saison vraiment en enfer, dont on sent dès le début qu'elle va jouer à la dernière journée. Peut-être pas dès le début, mais au fur et à mesure.
Ouais, je dirais pas le dès le début, parce que finalement, on s'était sauvé à 2-3 journées de la fin l'année d'avant, ouais. Parce qu'on l'oublie, on a joué le maintien deux années de suite, et on se disait, allez, c'est bon, cette fois, ça va le faire. Et assez vite, on se rend compte que ça va juste pas le faire. Quoi. Ouais. Et on en parlait tout à l'heure. La première victoire au Parc, elle arrive en janvier.
Lens.
C'est Lens. C'est compliqué. Hein. Moi, j'ai un souvenir. Voilà, le 1er avril, match décalé du dimanche soir. On est 20e au coup d'envoi contre Lens. Alors, Lens n'était pas bien. D'ailleurs, c'est eux qui descendent. Oui, alors que d'habitude, Lens, c'était notre bête noire. Mais la banderole PSG en Ligue 1 Poisson d'Avril, elle m'a marqué. Hein, parce que là, évidemment, les jeunes générations, ils voient le PSG qui brille, la Ligue des Champions, mais on a connu d'autres moments. Ils sont beaux, mais avec du recul.
Romain, ton souvenir de cette saison, je crois que tu me disais que c'est quasiment la première saison dont tu te souviens en tant que supporter du PSG. C'est particulier de démarrer par ça.
Oui, tout à fait. J'ai commencé par le pire quelque part. Ouais. Donc ça permet de relativiser la suite. Ouais. Mais oui, j'avais 9 ans. 10 ans, enfin entre 9 et 10 ans, c'était la deuxième saison où je suivais le club. Donc la première, comme tu dis, c'était soldée par une 15e place, mais acquise vraiment à la fin. Mmh. Et là, celle-là, ouais, pas de victoire à domicile. Chaque match est compliqué, il n'y a pas un match facile que tu maîtrises. Et puis, petit à petit, tu commences à regarder dans le rétro et là, ça devient compliqué. Et j'ai des souvenirs quand je vais au Parc des Princes où, voilà, quand on gagne, là, c'est acquise avec les tripes, ouais. Le cœur. Et ouais, c'est quelque chose, quoi.
On va revoir l'équipe avec laquelle le PSG alors, a joué ce match à Sochaux. On va y venir. Trippi, Landreau dans les buts, Armand, Yepes, Camara, Roten, Chantôme, Paoletta. C'est quand même tout sauf une équipe destinée à jouer le maintien. C'est peut-être d'ailleurs ça le problème.
Oui, parce que quand même, c'était quand même une bonne équipe avec Paoletta qui était quand même un serial buteur. Il y avait aussi Mario Yepes que moi j'aimais bien en termes d'idole même, de sa manière de jouer, d'appréhender les matchs. Et c'est vrai, quand on regarde l'effectif même du Paris Saint-Germain et la composition de ce dernier match face à Sochaux, tu dis que non, le Paris Saint-Germain ne peut pas être dans cette situation-là. Mais
ça vous étonnait, vous les jeunes, de votre point de vue à vous, de voir ces joueurs-là, cadres internationaux avec une certaine expérience, flancher, sombrer à ce point-là ?
Non, parce que c'est du foot. Et le football, c'est complexe, et c'est compliqué aussi à comprendre, et que certains facteurs qu'on ne maîtrise pas peuvent rentrer en jeu. Oui, quand on le regarde d'un œil extérieur, c'est compliqué pour les supporters, et moi qui suis supporter quand même avant d'être joueur du Paris Saint-Germain. Mais dans le quotidien, on ne sait pas ce qui se passe au sein du vestiaire.
François Romain, c'est le genre de match, je pense que vous allez me dire où vous étiez ce jour-là, dont on se souvient, comment on l'a vécu. Vos souvenirs de ce match étouffant à Sochaux, allez-y.
Ah bah c'est la musique du multiplex. Non mais on peut rigoler, mais à l'époque il y avait un seul flux qui était le flux de Canal, et c'était compliqué, alors ça existait, mais c'était compliqué d'avoir le flux unique de Bonal. Et honnêtement, la sonnerie, mais j'ai cru que j'allais faire un infarctus. Ouais. C'est pas possible. Tu dis pitié que ce soit pour Paris, pitié que ce soit pour Paris. C'était.
Parce qu'il y avait Lens et Toulouse, je crois, qui étaient en concurrence avec le Paris Saint-Germain. Toulouse, je crois, gagne ce soir-là. Et il y a un moment très.
Lens-Bordeaux.
Ouais, très compliqué dans la soirée où Guiran Endo égalise pour Sochaux. Et si Lens marque un but supplémentaire, je crois que le PSG est en Ligue 2
ou
à ce moment-là.
Nous, on encaisse
un but. Oui, ou si le Paris Saint-Germain encaisse un but. Romain.
Cette soirée était particulière. Premier multiplex que je vis dans son intégralité, et j'avais pas la télé à l'époque, Canal Plus, donc c'était à la radio. Chez mon confrère d'RMC d'ailleurs. Donc pareil, il n'y avait pas tous les matchs en intégralité, en simultané, je veux dire, mais il y avait les voix et pas l'image. Donc il y avait aussi les commentateurs qui exultaient quand il y avait un but, mais tu ne savais pas trop pour qui c'était non plus.
Tu parles d'image, il y a une image qui reste, je pense, au ralenti pour tout le monde, parce que c'est Amara Diané qui a marqué le but salvateur pour le Paris Saint-Germain, avec ce but, vous en souvenez tous, de ce ballon qui roule au ralenti à deux à l'heure.
Ouais, et puis ça montre aussi la détermination qu'avaient les joueurs à ce match-là, parce que le but d'Amara Diané, il s'arrache.
Ouais.
Il s'arrache, limite, il le met en taclant. Bien sûr qu'il y a la ralentie, on est tous là en train de voir le but, le ballon.
Il était déjà au ralenti.
Voilà, le ballon rentrer tout doucement, et c'est vrai que c'est un exultoire, c'est une bouffée d'oxygène à ce moment-là.
C'est le sauveur du Paris Saint-Germain. Oui, le PSG doit une statue à Amara Diané.
Ah oui, bien sûr. Oui, sans compter. Mais en plus, il fait une bonne saison. Ouais. Non, mais on rigole parce qu'on pense au match de Sochaux, mais il fait plutôt une bonne saison.
La deuxième partie de saison.
Paul Letta, il joue pas tant que ça. Paul Le Guen le mettait beaucoup sur le banc à l'extérieur. Donc je crois même qu'Amara Diané doit être meilleur buteur du PSG cette année-là.
Je pense aussi, ouais.
Donc on lui doit une fière chandelle.
Petit détail amusant, juste ce soir-là, on en avait reparlé avec Fabrice Pancrate, il y a beaucoup d'anciens parisiens du côté sochalien. Alors il y avait Boukhari Dramé qui était là avec nous la semaine dernière, Pichot, Dalmat et Pancrate. Pancrate était prêté par le Paris Saint-Germain. Il a raconté que Paoletta lui avait un petit peu parlé pendant le match, qu'est-ce que tu fais Fabrice, et qu'il avait fait des appels au poteau de corner en fin de match. Bon, très particulier, il avait peut-être un petit peu levé, il l'a dit lui-même, peut-être un petit peu levé le pied en fin de match.
Oh. Nous, on aurait levé le pied contre Bordeaux en 99 pour que Marseille ne soit pas champion.
Ça n'arrive pas.
C'est l'histoire du foot aussi. Évidemment, c'est notre club de cœur, mais on parle d'un monument du football français. Ouais. Attention, ils ont vite fait lever le pied. Il ne faut pas dire autre chose.
Ouais.
Parce que Sochaux, ils marquent. Il y a un partout, on n'est pas bien. Donc, c'est... Mais oui, merci à tous ces soldats.
Est-ce qu'Amara Diané, le soldat, a fait aussi peut-être basculer l'histoire du PSG, Trippi? L'histoire aurait peut-être été totalement différente si le PSG était descendu. Peut-être pour toi aussi, tu l'as dit.
Ouais, bien sûr. Après, on ne sait pas. C'est vrai que si le PSG était descendu, peut-être qu'il y aurait eu des investisseurs qui seraient venus directement. Et...
Ou qui ne seraient pas venus.
Pense qu'ils seraient venus.
Tu penses?
Oh, la DNC, je pense qu'ils
seraient tombés à notre place. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à ce moment-là, y a quand même dans l'effectif un peu plus de 10 joueurs qui sont issus du centre de formation.
Ouais.
Qui est de la génération 87 à 90, donc moi. Mm-hmm. Où il y a pas mal de joueurs qui commencent à jouer, qui jouent régulièrement pour la plupart. Donc je pense à Chantôme, je pense à Mouloumbou, je pense plein de joueurs qui sont sortis. Et ça a attiré quand même, parce qu'on a été champion de France U18, dans le championnat de France U18, quand même des bons jeunes talents.
Ouais.
Je pense qu'il y aurait des investisseurs qui seraient venus pour faire remonter le club directement.
Ouais.
Un peu comme Monaco, c'est ça? C'est Monaco qui est descendu, ils sont...
Monaco, oui, les Russes arrivent,
Les Russes sont arrivés directement.
La question se pose quand même.
Le club est ruiné. Après le PSG, on oublie un détail, c'est qu'on avait les problèmes en tribune.
Oui, il y a eu le plan Le Prout deux ans après.
Les investisseurs, ils ne viennent pas forcément à ce moment-là.
C'est sûr aussi que Qatar serait venu sans le plan Le Prout, on est d'accord.
C'était très tendu entre Boulogne et Auteuil déjà à cette époque.
C'est une saison terrible pour le PSG, même si, paradoxalement, le PSG a toujours été une équipe de coupe, fait Coupe de la Ligue et finale de Coupe de France cette année-là.
On se fait voler en finale de la Coupe contre Lyon.
Ouais.
C'est pourtant une saison terrible d'un côté, peut-être la pire du PSG, et paradoxalement un moment gravé, je pense, dans l'histoire et dans l'esprit des supporters. Non.
C'est des émotions de fou.
Ouais.
Non, mais je me rappelle de l'Union Sacrée, les capots à Auteuil, au Lutèce, qui et tout le match lançait, les gars, l'Union Sacrée, le président... c'était le président Kézak.
Oui, qui avait laissé sa place.
Qui laisse à 5 journées de la fin à
Simon Michel Moulin qui arrive. Hein.
Ouais. C'est une Simon Tard, ouais. Président de la Fondation, également ouais. Historique du club. Enfin, il y avait vraiment cette envie de se sauver ensemble. Alors, ce qui n'empêchait pas la 70e minute de les conspuer parce qu'on avait un stress de descente. On n'imaginait pas les jouer à Créteil. Il enfin, faut se rappeler ouais. Ce qu'il y avait en Ligue de l'époque. Pour nous, c'était terrible.
Il y a le match juste d'avance au show aussi, PSG Saint-Etienne. Beaucoup s'en souviennent également au Parc des Princes, les adieux de Paoletta. Le PSG qui, à un moment, virtuellement, est en Ligue 2, je crois, pendant cette avant-dernière journée. Jérémy Clément qui égalise. Enfin, il y a plein de choses sur ce match-là également.
Ouais, c'est un peu la synthèse de toute la saison galère du PSG, avec effectivement de l'affect. Paoletta qui joue son dernier match au Parc. Le PSG qui se retrouve en Ligue 2. On ne sait jamais quand un grand club descend en Ligue 2, on ne sait jamais quand il va remonter. Nantes a mis beaucoup de temps. Effectivement, il y avait un climat très tendu en tribune. On ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Donc il y avait aussi ce stress-là. Et puis je pense aussi au niveau salarié du club. Hein, quand un club est en Ligue 2, tu changes de dimension, tu t'es obligé de dégager du monde. Donc forcément, il y avait ce stress-là. Et cette libération à l'avant-dernière avec le but de Clément, plus la dernière journée avec ce scénario à Sochaux, je pense ouais, dans la vie d'un supporter, c'est un tournant majeur. Oui.
D'ailleurs, depuis l'arrivée des Qataris, alors parfois les gens disent est-ce que toi t'as vécu Sochaux parce qu'en fait, dans ce qui est être supporter du PSG, c'est une référence.
On a souffert ensemble.
Mais c'est ça, parce que les gens qui ont connu que le PSG, c'est normal, ils ont leur âge, qui gagnent, peut-être non. Je vais pas dire qu'ils ont pas le même amour que nous pour le club, mais quand t'allais au Parc à cette époque-là et qu'on se faisait honnêtement taper par tout le monde.
Ouais.
Vraiment, fallait l'avoir dans les.
Unique, vraiment l'avoir dans pour les encore plus anciens, le PSG qui joue le maintien et qui l'obtient à la dernière journée, c'est quand même particulièrement unique. Juste un dernier petit mot, c'est un peu passé inaperçu, ce sont les adieux de Paoletta qui s'en va là-dessus, mais en préservant et en laissant le club en Ligue 1.
Heureusement, parce que c'est quand même un très grand joueur du Paris Saint-Germain. On se rappelle de ses buts et notamment celui face à Fabien Barthez face à Marseille au Parc des Princes. Et c'est vrai qu'il laisse son empreinte en laissant le Paris Saint-Germain, pas lui, mais. Si c'est lui en termes de modèle unique, en laissant le Paris Saint-Germain en Ligue 1, bah forcément c'est un plaisir.
On pleure avec beaucoup d'émotion, on s'en souvient sur la pelouse de Bonal. C'était le moment nostalgie, un petit coup d'œil avant l'OMNI sur le calendrier du PSG. 4 matchs en 11 jours, PSG-Brest mercredi en Ligue des Champions, Lyon-PSG en Ligue 1, la Coupe de France ensuite avant la réception de Lille et un éventuel 8e de finale aller de Ligue des Champions. On passe à l'OMNI Sport tout de suite avec les résultats de vos clubs franciliens, le tout résumé par Raphaël Redon.
Si ce n'était pas encore la crise au Racing, cela y ressemble désormais, avec une défaite à domicile face au dernier Vannes.
Je ne vais même pas parler de coup d'arrêt parce qu'on est arrêté depuis pas mal de matchs maintenant. Beaucoup de tristesse et déception.
Malgré 3 essais inscrits par les Racingmen, la défense a coulé avec autant d'essais encaissés. L'autre point noir, l'indiscipline, avec notamment le carton rouge reçu par le capitaine Ibrahim Diallo. Défaite au final 30-25. À quelques kilomètres de là, à Jean Bouin, le Stade français a également pris l'eau en encaissant 37 points, mais a fini par surnager face à Pau dans une victoire étriquée 39-37, suffisant pour éviter la crise.
Et même tout le match, on n'a jamais lâché. On n'a jamais lâché parce que parfois t'es pas récompensé, mais dans la vie, si tu gardes le process, à un moment donné, ça paye.
Avec ces résultats, les Parisiens possèdent désormais un point d'avance sur les ciels et blancs, mais les deux équipes restent menacées par la relégation. 4 jours après la déconvenue en Ligue des Champions face à Plock, le PSG a confirmé sa mauvaise passe hier face à Dunkerque. Les Parisiens ont été tenus en échec 27 partout, après avoir pourtant mené de 2 buts en fin de match, et même avoir eu une balle de victoire dans les dernières secondes. Avec ce nouveau coup d'arrêt, Paris laisse Nantes seul leader du championnat, avec un point d'avance. Le Paris Basket a aussi connu la déception ce week-end. Tenant du titre de la Leaders Cup, les Parisiens ont été éliminés dès les quarts de finale par Saint-Quentin avec une défaite 92-86. Le duo Nadiri-Fitidji Shorts, inspiré en première période, n'a pu faire la différence en fin de match. Le shoot décisif est revenu à Jovan Onyangé. Paris a maintenant 15 jours de repos avant de retrouver les parquets en Betclic Elite face à ces mêmes joueurs de Saint-Quentin.
Comme Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à Trippi Makonda. Merci beaucoup.
Bah, merci à vous.
Merci
très sympa.
À Trippi d'avoir passé toute l'émission à notre côté. Romain, François, je vous laisse le mot de la fin pour ce qui était votre dernière ce soir dans Cop Paris.
Ouais, tout à fait. Ben, un grand merci à toi, Julien, à toute l'équipe, à tous les salariés de BFM Paris de nous avoir laissé cette chance de nous exprimer en tant que supporters et amoureux du PSG. J'ai passé des super moments ici, une petite douzaine d'émissions avec des gens tout autant sympas autour de moi, des anciens joueurs comme Trippi. Donc voilà, un grand merci et j'espère qu'il y en aura d'autres.
François ?
Je voudrais remercier toutes les équipes parce que c'est toujours émouvant. Vous nous avez invités pour venir parler du PSG, c'était extrêmement sympa. Moi, j'ai eu la chance d'être là depuis la première en 2021, donc un grand merci. Je voudrais penser à tous les employés de BFM Paris, c'est pas forcément rigolo et vraiment mes pensées vont vers eux et au nom de tous les gens qui viennent avec nous, on a une boucle WhatsApp et tout le monde, on pense fort à tous et vous remercier sincèrement et toi le premier parce que c'est pas évident, nous on bah voilà, on n'est pas des professionnels et merci de nous avoir permis de nous amuser à la télé et ça a été un grand plaisir. On a hâte de te retrouver à l'antenne et de retrouver également tous les salariés qui nous ont toujours accueillis avec beaucoup de bienveillance.
Merci les gars, c'était un beau message, merci à vous, merci pour votre présence tout au long de ces semaines, mois et années sur le plateau de Cop Paris. On va quand même se retrouver la semaine prochaine pour une émission qui sera forcément un petit peu spéciale avec pas mal de surprises. D'ici là, portez-vous bien et à lundi prochain.